Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Le Burundi dans l'attente des résultats du référendum, le oui pourrait largement l'emporter. En République démocratique du Congo, l'activiste Rossi Mukendi inhumé près de 2 mois après sa mort à Kinshasa. En Centrafrique, après les dernières violences à Bambari, la Croix-Rouge annonce une 30aine de morts. Le gouvernement camerounais, les séparatistes sont accusés de nombreuses exactions par l'ambassadeur américain.
Et il fallait à un moment donné qu'il y ait des réactions fortes au-delà de celles des ONG camerounaises qui sont banalisées, mais qu'il y ait des réactions fortes de la communauté internationale avec les implications que ça entraîne.
Ici aux États-Unis, 10 morts dans une nouvelle fusillade dans un lycée du Texas. Dans la Minitéco, on passera par la Côte d'Ivoire qui a doublé en 5 ans sa production de noix de cajou. Et avant-goût du deuxième tour des éliminatoires Cannes des moins de 20 ans dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Résultat provisoire du référendum d'hier au Burundi. Sans surprise, le oui pour la réforme constitutionnelle l'a remporté dans les 10 provinces du pays. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourouniza.
Prosper Naogwamiye, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante Burundi, affirme que les centralisations des résultats des 10 provinces ont été rendues publiques par les présidents de la Commission électorale provinciale. Ngozi, province natale du président burundais, les 8 l'emportent avec plus de 86% des voix des votants, tandis qu'à Karuzi, au centre du Burundi, 90% des votants ont adopté le changement de la constitution. Dans la capitale Bujumbura et la province de Bururi au sud du pays, les habitants ont adopté la nouvelle constitution à 53 et 52%. Les provinces de Makamba et Rumonge, toujours au sud du pays, les votants ont adopté les changements constitutionnels à 66 et 68% des voix. Les provinces de Muramvya et de Ruigi, 78 et 72% des habitants en âge de voter ont accepté le changement de la constitution. Prosper Naogwami a indiqué que la centralisation des résultats des bureaux de vote est terminée et que les résultats provisoires vont être donnés d'une minute à une autre, mais sans donner de date précise. Le porte-parole de la commission électorale nationale indépendante reconnaît que quelques incidents au niveau organisationnel ont été observés, mais qui ne sont pas de nature à invalider un scrutin. Ce référendum constitutionnel au Burundi s'est déroulé sans la présence des observateurs étrangers. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et en République démocratique du Congo, 2 mois et demi après sa mort lors d'une manifestation, les obsèques de l'activiste de droits de l'homme, Rossi Mukendi, sont finalement organisées à Kinshasa. Plusieurs organisations des droits de l'homme, l'Église catholique ainsi que des partis politiques de l'opposition se sont mobilisés pour rendre un dernier hommage à cet activiste tué par balle le 25 février dernier. C'est un reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est ce vendredi peu avant midi que la dépouille mortelle de l'activiste Rossi Mukendi Chimanga a quitté la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa pour la place Asanef dans la commune de Lingwala où elle sera exposée jusque samedi pour les derniers hommages. Un cortège d'une centaine de ses amis et compagnons activistes des droits de l'homme et membres des mouvements citoyens a accompagné la dépouille à pied jusqu'au lieu du recueillement. Le peuple gagne toujours. Justice pour Rossi, pouvait-on notamment lire sur les t-shirts et banderoles qu'ils arboraient. Rossi Mukendi Chimanga a été tué par balle le 25 février 2018 pendant la marche organisée par le comité laïque de coordination pour réclamer l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Ce samedi 19 mai, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, célébrera une messe en la cathédrale Notre-Dame en sa mémoire, selon le programme établi avant sa mise en terre dans l'après-midi à la nécropole Paul entre terre et ciel dans la commune de Lansele. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et en République démocratique du Congo, toujours, les structures se mettent en place pour faire face au virus Ebola. Pour MSF, il ne faut pas céder à la panique, la situation n'est pas incontrôlable. Le plan de riposte contre Ebola est activé, Mbandaka est sous surveillance sanitaire, a déclaré Jessica Ilunga du ministère de la Santé. Selon un nouveau bilan de l'OMS, le nombre de morts s'élève à 25 sur un total de 45 cas confirmés ou suspects. en Centrafrique. Alors que la tension est quelque peu descendue à Bambari, dans le centre du pays, la Croix-Rouge fait état d'une trentaine de morts et plus de 20 blessés après les violences de ces derniers jours. Un premier bilan est officiel, mais encore provisoire. Entre-temps, la MINUSCA déplore la mort d'un casque bleu tué hier dans une embuscade non loin d'Alindao. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
C'est le premier bilan officiel fourni depuis la reprise des violences lundi dernier dans la ville de Bambari. En plus d'un déplacement massif de la population, des maisons incendiées, des commerces et ONG humanitaires pillées, ce vendredi, le président de la Croix-Rouge centrafricaine annonce 32 morts et 23 blessés. Antoine Baobogo.
Pour ce qui est arrivé à Bambari, les derniers événements malheureux de Bambari, il y a 32 morts et 23 blessés, ce qui fait que nous sommes dépassés. Si les gens peuvent écouter un bon raisonnement et arrêter ces tueries, parce que de vengeance en vengeance, on n'en finira pas.
Depuis hier, un calme relatif règne à Bambari, où le gouvernement assure avoir dépêché une mission pour amener l'ordre et la sécurité. Lundi dernier, Bambari a basculé dans une nouvelle spirale de violence à la suite de l'assassinat d'un membre de la communauté Peul par des individus non encore connus. Les représailles disproportionnées menées par des hommes de l'UPC ont fait fuir la majeure partie de la population. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et les États-Unis ont accusé le gouvernement camerounais et les séparatistes de la minorité anglophone de nombreuses exactions depuis fin 2017 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Jacques Aristide.
Pour l'ambassadeur américain au Cameroun, il y a eu des assassinats ciblés et des incendies, ainsi que des pillages de villages du côté gouvernemental. Peter Henry Barlerin accuse également les séparatistes armés de meurtres de gendarmes, enlèvements de fonctionnaires et incendies d'écoles. Le diplomate a été reçu hier à Yaoundé par le président Paul Biya. Les États-Unis ont appelé le chef de l'État camerounais à utiliser son leadership en vue d'un dialogue. C'est la première fois qu'une chancellerie occidentale affirme ouvertement que des exactions ont été commises par un camp ou l'autre. En février dernier, l'Union européenne avait appelé l'armée camerounaise à un usage proportionné de la force. L'armée a toujours nié les accusations d'exaction. Yaoundé pointe du doigt l'Afrique du Sud, l'Amérique et l'Europe comme étant des bases arrières des indépendantistes. D'après le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, le gouvernement a reçu l'ambassadrice sud-africaine pour lui faire part des inquiétudes et des mesures que Pretoria pourrait prendre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ici, aux États-Unis, au moins 10 personnes ont été tuées dans une nouvelle fusillade dans un lycée du Texas. Un autre incident a eu lieu sur le terrain de golf du président Trump en Floride. Le point avec Marie Benson.
La fusillade a eu lieu dans le lycée Santa Fe de Galveston, au Texas. 9 lycéens et un enseignant ont été tués. Des renforts ont été aussitôt envoyés dans cette petite ville pour sécuriser les lieux. Selon le shérif du comté, Ed Gonzalez, 2 personnes ont été arrêtées et sont interrogées par la police. Un peu plus tôt, un autre incident en Floride, un habitant de Doral avait déchargé son arme à feu dans un golf tenu par la Trump Organization. Juan Carlos Bermudez, le maire de la ville, a fait savoir qu'aucun employé ni client de l'établissement n'a été touché, mais l'assaillant a été blessé à la jambe par les policiers.
Et Israël, accusé par le haut commissaire de l'ONU, Zeid Raad al-Hussein, il a appelé à la fin de l'occupation israélienne de la bande de Gaza. Selon lui, les près de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont systématiquement privés de leurs droits par Israël, qui les garde en cage dans un bidonville de leur naissance à leur mort. Par ailleurs, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va envoyer une équipe internationale spécialisée dans les crimes de guerre pour enquêter sur les récents événements à Gaza. En réaction, Israël dénonce l'hypocrisie et l'absurdité de cette décision. L'ensemble de la hiérarchie de l'Église catholique chilienne a présenté sa démission dans le cadre d'un énorme scandale de pédophilie. La balle est dans le camp du pape pour prendre des sanctions après cette démission collective inédite dans l'histoire récente de l'Église catholique. La Commission européenne a informé l'Organisation mondiale du commerce que l'Union européenne était prête à prendre des contre-mesures si les États-Unis lui imposaient des droits de douane sur son acier et son aluminium. Dans un communiqué ce vendredi, l'exécutif européen écrit que l'Union européenne a notifié à l'OMC une liste de produits américains sur lesquels elle pourrait à l'avenir appliquer des droits d'importation supplémentaires si l'exemption dont elle bénéficie jusqu'au 1er juin ne devait n'est pas définitive. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a doublé en 5 ans sa production de noix d'ocajou. Cette performance l'a hissé au premier rang mondial des producteurs. Entre 2013 et 2017, la récolte est passée de 380 000 à 711 000 tonnes. Actuellement, le pays représente 22% de la production mondiale et table sur une production de 750 000 tonnes en 2018. Depuis 2014, le prix du kilo est passé de 275 à 500 francs CFA au jour. Le gouvernement pratique un système de prix plancher qui a permis aux producteurs de vendre sa récolte jusqu'à 715 francs CFA pour la campagne 2017. Le secteur ivoirien de l'anacarde compte 250 000 producteurs et emploie 1,5 million de personnes. 40% de la population angolaise est très pauvre et dispose de moins de 700 dollars par an pour vivre. Ce chiffre est très loin derrière la moyenne des 3400 dollars de produit intérieur brut par habitant. Des estimations officielles indiquent que seulement 36% des Angolais ont accès à l'électricité, ce qui laisse environ 15 millions d'habitants sans lumière ni énergie. Dans les zones rurales, le taux d'électrification est d'environ 8%. Le Japon prête à prendre des mesures de représailles pour répondre à la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Le ministère des Affaires étrangères a informé l'Organisation mondiale du commerce, OMC, avoir le droit d'instaurer des taxes sur des marchandises américaines à hauteur de 50 milliards de yens.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Deuxième tour des éliminatoires CAN des moins de 20 ans ce week-end.
Si rien n'est encore joué dans plusieurs confrontations, certaines équipes ont une longueur d'avance, à l'image du Mali, de la Zambie, du Nigeria ou encore de l'Angola, qui ont réalisé de bonnes opérations à l'aller. Le Nigeria, avec son match nul 2-2 à Bissau, a toutes les cartes en main pour le troisième tour. Le Gabon se déplace à Abidjan avec une belle avance de 3 buts. Les Panthers juniors sont dans le même cas de figure que le Burkina Faso qui avait dompté 3 buts à 1 la Libye. Le Ghana peut également faire la différence à domicile devant l'Algérie. Expédition par contre compliquée pour la Gambie à Cotonou.
Après Domenech, c'est Santini qui postule aussi pour le poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Décidément, le poste de sélectionneur des éléphants vacant depuis le départ de Marc Villemotte suscite des convoitises chez les anciens sélectionneurs de l'équipe de France. Après Raymond Domenech, Jacques Santini a exprimé son intérêt auprès de la Fédération ivoirienne, d'après le site Sport Ivoire. Prêt à des sacrifices financiers, l'homme de 66 ans proposerait un projet novateur avec un point d'ordre, la CAN 2021, qui sera organisée par la Côte d'Ivoire. Mais le technicien n'a plus exercé depuis 2006. La FIFA annoncera son choix en juin.
Yacouba, Ligue Europa, deux Africains dans le meilleur effectif de la saison.
Il s'agit du Guinéen Nabi Keïta, reversé de la Ligue des Champions et éliminé en quart de finale avec le RB Leipzig, et du Malien Diadi Samaseko, sorti en demi-finale avec le Red Bull Salzbourg. Les deux Africains sont tous des milieux de terrain. Pour rappel, la Ligue Europa a rendu son verdict mercredi dernier avec la victoire de l'Atlético Madrid en finale sur l'OM, 3 buts à 0.
Et 20 ans après la Coupe du Monde de France 98, Michel Platini fait de troublantes révélations.
Et oui, le co-président du comité d'organisation de l'époque parle de petites magouilles. Michel Platini a affirmé au micro de France Info que le tirage au sort de la compétition a été en partie manipulé en plaçant arbitrairement certaines têtes de série dans certaines poules plutôt que dans d'autres. L'objectif, selon lui, était d'empêcher que la France et le Brésil se rencontrent avant la finale. L'ex-président de l'UEFA a déclaré, je cite, « On ne va pas s'emmerder pendant 6 ans si on ne peut pas faire quelques petites magouilles, des déclarations troublantes, même si elles ne surprennent plus grand monde. »
Merci Yacouba Ouedraogo.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Crise anglophone du Cameroun. L'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé accuse les forces de sécurité d'assassinats ciblés. Dans une déclaration officielle, Peter Henry Ballerin impute aussi aux séparatistes anglophones des meurtres de gendarmes et des enlèvements de fonctionnaires. Pour une réaction, Timothée Donogmaï a joint à Douala Hilaire Kanga, le porte-parole de la plateforme de la Société civile camerounaise pour la démocratie, qui rentre d'un séjour dans la zone anglophone.
Depuis que le dialogue est demandé et que les autorités de Yaoundé s'entêtent dans une posture belligérante, le Cameroun ne fait que compter des morts et il fallait à un moment donné qu'il y ait des réactions fortes au-delà de celles des ONG camerounaises qui sont banalisées, mais qu'il y ait des réactions fortes de la communauté internationale avec les implications que ça entraîne. Donc la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, qui, il faut le rappeler, le gouvernement américain est impliqué dans les opérations sécuritaires au Cameroun depuis la lutte contre Boko Haram. Et donc s'il y a quand même cette position qui n'hésite pas à pointer du doigt quand même les exactions des forces de sécurité camerounaises, je crois que c'est une nouvelle ère qui est inaugurée dans cette crise, surtout que ça arrive au moment où les évêques, pour une fois, ont pris une autre position suffisamment claire de manière globalisante. Les évêques entiers qui demandent le dialogue et qui reconnaissent qu'il y a des exactions de part et d'autre.
Et justement, l'ambassadeur américain accuse les séparatistes anglophones de meurtre de gendarmes et d'enlèvement de fonctionnaires.
Il va de soi que, sur le plan diplomatique, il aurait été totalement inadmissible et incompréhensible qu'un diplomate de ce rang ne pointe pas du doigt les exactions que subissent les forces de sécurité de défense. Ça, c'est une évidence, puisqu'il y a eu des gendarmes et autres qui sont morts. Ça, c'est la vérité. Mais simplement, ce qui est important de noter, c'est qu'on pointe quand même du doigt aussi les exactions des forces de sécurité, surtout avec les tortures et les enlèvements et les exécutions extrajudiciaires qui sont enregistrées ces temps-ci et de la part des forces de sécurité.
Vous rentrez de Boya dans le sud-ouest anglophone. Quelle est la situation aujourd'hui là-bas?
Je viens de passer quelques jours dans une ville, dans une région qui vit dans une psychose de peur, la veille de la fête du 20 mai. Notez que dans cette région, dans ces régions-là, les séparatistes ou alors les combattants de ces zones-là ont décrété qu'il ne devrait pas avoir de défilé parce que le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Et selon eux, on ne peut pas fêter l'unité au moment où ils sont pratiquement en train de vivre une posture d'apartheid. Donc on a vu une zone qui est totalement militarisée. Pratiquement la plupart des stations d'essence sont remplies de forces de l'ordre qui sont armées jusqu'aux dents et les populations ont peur. Je vais vous avouer que beaucoup de lieux de commerce sont fermés et les lieux d'enseignement sont tout aussi fermés. Donc c'est une ville, une région, d'abord la ville de Boya elle-même, de Moutenguéné, de Lindé, il y a une psychose réelle de peur, parce qu'à tout moment il peut y avoir des coups de feu, et c'est triste quand même pour le Cameroun.
L'ambassadeur américain à Yaoundé a dit avoir exhorté le président Paul Biya à user de son leadership pour amener les deux camps en conflit dans les zones anglophones à se parler, à s'écouter, qu'en est-il?
Mais nous souhaitons qu'on aille au-delà d'exhorter M. Biya et son leadership, qui aujourd'hui d'ailleurs est remise à mal. Il ne s'agit plus simplement de ça, il s'agit d'imposer le dialogue. Parce qu'il y a un discours que l'ambassadeur des États-Unis est allé à lancer le là, mais il faut aller au-delà de cette exigence et que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Parce que demain, on va se retrouver dans une posture de génocide et il ne faudrait pas qu'après, ce soit comme le Rwanda, où des gens se rejettent la responsabilité. Ils auraient pu, alors qu'aujourd'hui, tout le monde crie que la situation est très grave.
C'était Hilaire Kanga, porte-parole de la plateforme de la Société civile camerounaise pour la démocratie, joint à Douala. Ce soir, dans l'Amérique et vous, gros plan sur la crise anglophone au Cameroun. Les États-Unis accusent le gouvernement et les séparatistes d'exactions. Comment comprendre cette condamnation et quel pourrait être l'impact sur les belligérants? L'administration américaine peut-elle aider à résoudre cette crise? Peut-on parler d'ingérence de Washington dans les affaires intérieures du Cameroun? On en discute à 19h temps universel avec nos invités, Morgane Guerriec en votre compagnie. Pour participer à l'émission, laissez vos commentaires et numéros de téléphone sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous contacter au 001 202 205 26 33 pendant l'émission. Et la visite en République démocratique du Congo du président du Comité international de la Croix-Rouge, alors que le pays est confronté à une crise humanitaire et à l'épidémie d'Ebola, Peter Maurer a visité plusieurs provinces touchées par des conflits armés. Au Nord Kivu, il a rappelé le soutien apporté par le CICR aux interventions chirurgicales que nécessitent les blessés à Goma, civils et militaires. Charlie Kasereka pour les détails.
C'est au Nord Kivu que le patron du CICR a clôturé sa tournée de 4 jours en RDC. L'objectif, évaluer la situation humanitaire dans les centres et l'est du pays. Peter Moret s'est rendu au Kasai, Tanganyika, au sud et au Nord Kivu, où il a tenu une conférence de presse à Goma. Le président du CICR souligne que la recrudescence de la criminalité touche aussi l'action humanitaire.
Ici, en RDC, ce qui nous préoccupe, c'est clair, c'est la criminalité recrudescente qui touche aussi des actes humanitaires et qui échappe souvent un peu ce concept d'engagement avec toutes les parties.
Le CICR a visité environ 26 000 prisonniers dans 10 prisons de la RDC ces deux dernières années. Avec l'épidémie d'Ebola, le CICR apporte un appui à travers la Croix-Rouge locale pour la prévention et la gestion des dépouilles mortelles. Christine Chipola, déléguée CICR en RD Congo.
Il y a plus de 200 volontaires qui ont déjà été mobilisés pour cette crise-là et on est totalement prêts à répondre à plus d'appui. Nous venons en aide à un support, en appui seulement à la Croix-Rouge dans les domaines de l'hygiène, dans les domaines de l'eau et de la sanitation, dans les domaines de la gestion des dépouilles mortelles qui est un point très important dans ce genre d'épidémie.
Au Nord Kivu, le comité international de la Croix-Rouge intervient dans les domaines sanitaires depuis 6 ans, avec maintenant une équipe de médecins participant aux interventions chirurgicales pour les blessés de guerre. L'intervention du CICR en RDC dépasse le cadre de l'assistance humanitaire d'urgence pour s'étendre dans des aides durables et dans l'assainissement des installations de distribution d'eau potable et l'accompagnement socio-économique des populations locales. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé avoir annulé les exercices militaires américains en Corée du Sud à l'approche du sommet avec le président nord-coréen Kim Jong-un. Pourtant, Washington et Séoul menaient ces manœuvres militaires depuis 60 ans. Yacouba Ouédraogo a joint Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique à Paris.
C'est une décision tactique de la part de Donald Trump qui tient sans doute à ce sommet pour tenter de dénouer la crise nucléaire avec la Corée du Nord et qui est donc prêt à sacrifier, en tout cas pour le moment, les exercices habituels avec la Corée du Sud pour donner en quelque sorte un gage de bonne volonté à la Corée du Nord. Mais ça ne veut pas dire évidemment que si le sommet devait échouer, il ne reprendrait pas ces exercices.
Ces exercices militaires se font depuis quand même 60 ans. Si Donald Trump peut faire une telle concession, Kim Jong-un peut en demander plus.
Une partie du deal, entre guillemets, c'est que si la Corée du Nord abandonne ses capacités nucléaires, éventuellement ses capacités balistiques qui lui permettraient de toucher les territoires nord-américains, il considérera ça comme un signe de bonne volonté suffisant en faveur de l'apaisement pour qu'en échange, il y a deux choses très importantes. C'est d'abord qu'il y ait éventuellement enfin un traité de paix entre les États-Unis et la Corée du Nord après la guerre de Corée, ce qui n'est toujours pas le cas, et que par ailleurs, les États-Unis démontrent leur volonté de ne plus exercer de pression militaire sur la Corée du Nord en abandonnant les exercices qui sont au cœur de l'alliance militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis. On a vu que Donald Trump n'avait pas hésité à remettre en question l'accord avec l'Iran et donc de la part de Kim Jong-un, il est certain que si rien n'est fait véritablement pour une véritable dénucléarisation de la Corée du Nord qui puisse être vérifiée, eh bien le risque, c'est tout simplement que, après avoir eu ce sommet-là, Trump n'hésite pas éventuellement à reprendre la politique de tension et de pression.
On se rappelle aussi que Kim Jong-un a déclaré en coup de semaine qu'il ne va pas accepter aussi facilement la dénucléarisation.
Ça fait partie sans doute des tactiques de négociation. Le risque, notamment que le Japon s'inquiète du fait que Donald Trump, qui serait à la recherche d'un accord d'accord à tout prix avec la Corée du Nord pour des raisons politiques ou de prestige, eh bien accepte finalement des conditions qui seraient inférieures à ce qui est espéré dans la région, c'est-à-dire une démilitarisation de la Corée du Nord.
On se demande bien pourquoi le président américain Donald Trump tient tant à ce sommet du 12 juin à Singapour avec Kim Jong-un.
Ben, le sommet est important parce qu'il n'y a jamais eu de contact à ce niveau-là avec la Corée du Nord et puis parce que surtout, il y a eu cette proposition de la part de la Corée du Nord d'accepter l'idée d'une démilitarisation. Le sommet, évidemment, est important pour Donald Trump, pour son image. Peut-être on a parlé du prix Nobel et ce genre de choses, et peut-être que ça joue un rôle. L'objectif serait d'obtenir ce que tout le monde attend, non seulement dans la région, mais au-delà, qui serait de voir la Corée du Nord se rendre compte que finalement, pour l'avenir même du régime, la meilleure solution, c'est le développement économique, donc éventuellement une coopération avec les États-Unis et avec leurs alliés dans la zone, permettrait au régime nord-coréen de sortir du statut de pays extrêmement isolé, totalement dépendant de la Chine.
C'était Valérie Niquet de la Fondation pour la Recherche Stratégique, jointe à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et toujours aux États-Unis, le vol des numéros de cartes de crédit en ligne s'accentue. D'autres, par contre, le font directement à partir de la carte. D'après les services secrets américains, ces escrocs volent plus $1 milliard par an. Un groupe d'étudiants de l'Université de Floride a mis au point un dispositif qui peut mettre un terme à ce type de crime. C'est un reportage de Georges Poutic, récit de Gabi Dorsil.
Les cartes de crédit ultra-modernes ont des puces électroniques qui sont difficiles à falsifier. Cependant, beaucoup d'entre elles ont des bandes magnétiques qui permettent de les utiliser sur d'anciens lecteurs de cartes, surtout dans les petits magasins et pompes à essence. Et c'est là qu'elles peuvent être craquées, nous dit Patrick Trenor, professeur à l'Université de Floride.
Les cartes de crédit sont lues à l'aide de ce qu'on appelle un lecteur de cartes ou une tête de lecture. Une seule tête de lecture devrait être présente dans une fente de carte.
Les escrocs attachent leur propre lecteur sur ceux déjà existants. Et lorsqu'un client insère sa carte de crédit, le lecteur supplémentaire récupère toutes les informations nécessaires pour créer une copie parfaite. Ce type de crime est très répandu, surtout dans les grandes villes comme New York, où seulement 4 détectives sont formés sur ces nouvelles méthodes d'escroquerie dans les guichets automatiques. Le travail de ces détectives est devenu plus facile, cependant, avec la fabrication d'un appareil appelé Skim Reaper, inventé par un groupe d'étudiants de l'Université de Floride, sous la direction du professeur Patrick Trenor. Écoutons l'étudiant Nolan Scaife.
Nous sommes heureux d'être en mesure de produire quelque chose qui va freiner cette vague.
Le dispositif est composé d'une carte électronique 2 fois plus longue qu'une carte régulière. Le tout est attaché à un afficheur numérique. Lorsqu'il est inséré dans la fente du guichet automatique, l'affichage numérique révèle immédiatement la présence d'un lecteur de cartes supplémentaires. James Lila est détective à la police de New York.
Je suis impressionné par le trouvaille qui permet de détecter les périphériques suspects.
Les pièces pour la fabrication du détecteur de lecteur de cartes coûtent environ $50. Toutefois, ses inventeurs disent vouloir le rendre moins cher et plus petit, de sorte que des agents de police puissent l'utiliser quotidiennement.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma à la mise en onde, Cédric Franklin à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.